Viceva, le premier chrétien, conte de Noël. Arrivé en courant devant l'entrée de la grotte, la jeune fille s'arrêta. Elle tremblait d'angoisse. Pourquoi donc le ciel s'était-il éteint brusquement, comme si quelque vent de malheur avait chassé d'un seul coup tout le troupeau des étoiles? Et pourquoi, brusquement, dans l'air glacé du soir, ce mortel silence, où elle entendait si lugubre les battements saccadés de son cœur? Non, jamais elle n'oserait aborder ce vieillard terrible, qui, venu à Bethléem, on ne savait d'où, depuis 2 ans, vivait là, ne parlant à personne, ne regardant personne, avec sa méchante figure d'oiseau de nuit. Oh, elle voulut s'enfuir. Mais bientôt, le souvenir de sa détresse lui rendit courage. Elle poussa la cloison de planches qui fermait la grotte, et dès le seuil, joignant les mains, « Oh, voisin !» cria-t-elle, « secourez-moi ! Que deviendrai-je si vous ne me secourez ? Ma chèvre, mon unique chèvre, je n'avais qu'elle pour me nourrir et pour me tenir compagnie. Elle s'en est allée, elle court dans la montagne. Mon unique chèvre, la prunelle de mon œil droit, impossible de la rejoindre. Dans Bethléem, tout le monde dort. Vite, bon vieillard, venez, aidez-moi à la rattraper. » La plainte de la malheureuse avait réveillé le veuf Félan couché au fond de la grotte sur un lit de paille. Mais le vieillard ne paraissait pas l'avoir entendu. Il se tenait debout, appuyé au mur. La lueur vacillante d'un brasier éclairait par instants son grand corps osseux, ses mains fines et blanches, et ce pâle visage aux yeux creusés qui, dans les rues de Bethléem, épouvantait les enfants. Ainsi il restait, immobile, occupé sans doute à quelque mauvais rêve. Mais comme la jeune fille continuait à l'implorer, tordant ses beaux cheveux répandus sur son épaule, comme elle le suppliait, toute sanglotante, de lui rendre ce précieux service d'où dépendait sa vie, il dit enfin, sans relever la tête, « Non, va-t'en, je ne me rends service à personne. » Et longtemps après que la jeune fille fut partie, le vieillard se tint immobile, appuyé au mur. Son mauvais rêve n'était pas près de finir. Non, en effet, il ne rendait de service à personne. Il se l'était juré jadis. Et depuis lors, c'était comme un refrain qui, par intervalles, résonnait dans son cœur, coupant le noir cortège de ses souvenirs. Et puis le noir cortège défilait en lui de nouveau. Le vieillard s'exaltait dans un mépris haineux des dieux et des hommes. Il maudissait sa destinée, qu'il ayant créé pour le bonheur, lui avait fermé le bonheur. Il revoyait tant d'années de sa vie perdues à la poursuite d'une lamentable chimère. Il était né à Athènes d'une famille illustre, habile dès l'enfance aux jeux d'hiver de la musique et de la gymnastique. Il aurait pu devenir le premier de la ville, et les plus beaux jeunes hommes se seraient disputés l'honneur de couronner son front. Mais sa raison droite et sûre l'avait tout de suite détourné de ses plaisirs trop faciles. Elle l'avait vite détourné aussi de vaines subtilités des philosophes et des niaises imaginations des savants. Elle lui avait montré, dans le bonheur des hommes, le seul but digne de lui. Et à ce but, il avait tout sacrifié, sa fortune, sa jeunesse, la fleur de son corps et de sa pensée. 30 ans, il n'avait eu d'autre souci que de verser le bien autour de lui. Hélas, pas une seule fois, il n'avait réussi à faire le bonheur d'un homme, ni le sien. Combien de projets, de rêves s'étaient brisés sur lui. Il semblait que son sang était devenu plus amer et qu'un fleuve de fiel courait dans ses veines. Non, non, jamais plus il ne rendrait de service à personne. Il avait rencontré sur son chemin un petit garçon abandonné de tous. Il l'avait recueilli, instruit, il avait partagé ses biens avec lui, et l'enfant, devenu homme, l'avait remercié en complotant de le tuer pour obtenir encore le reste de ses biens. Il avait tiré de la misère et somptueusement paré d'étoffes parfumées une jeune fille, si gracieuse, si naïve, si douce, avec le doux sourire de ses yeux. Il l'avait logée dans son palais, il lui avait donné plus de bijoux que n'en eurent jamais les maîtresses des rois. N'est-ce pas un sûr moyen de se l'attacher? Et la jeune fille, après l'avoir trompé en toute manière, s'était enfuie avec un baladin qui battait et qui trafiquait d'elle et qu'elle aimait tendrement. Race maudite! Mais n'y avait-il donc pas de Dieu pour l'anéantir? Et de nouveau, le vieillard voyait défiler en lui le morne cortège de ses souvenirs. Révolté contre un ordre social dont sa raison lui démontrait l'injustice, il avait distribué sa fortune aux mendiants. Il était allé chercher dans les faubourgs les derniers des va-nu-pieds et pour les faire riches, il s'était fait pauvre. Et ces misérables s'étaient ensuite moqués de sa pauvreté. Les hommes qu'il avait secourus s'étaient réunis pour le chasser de la ville. Mais croyait-il donc qu'on allait le nourrir, ou bien qu'il lui suffisait d'avoir restitué son or quand il en avait été là pour faire oublier la séculaire iniquité de ses ancêtres et la sienne? Et jusqu'au-delà des portes, sur la route, des femmes lui avaient jeté des pierres, comme un chien mangé de vermine. Si au moins ses bienfaits avaient apporté le bonheur à ceux qui les avaient reçus. Mais non, ses bienfaits avaient été funestes aux autres comme à lui. Les hommes sont une espèce mauvaise, et quiconque essaye de les servir risque seulement de leur nuire. Voilà ce que lui affirmait à présent sa raison, éclairée par l'amère expérience de ces 30 ans de sa vie. À vouloir améliorer le sort des hommes, on les dégoûte pour toujours de leur sort, et à vouloir les servir, on leur donne le désir d'être servis, on éveille en eux de nouveaux besoins, car ils ne sont nés que pour souffrir et pour faire souffrir, en attendant que la colère des dieux descende enfin sur leur race. Non, jamais plus il ne leur rendrait de service. Après des années de course désolée à travers le monde, il avait trouvé à Bethléem cette grotte qui jadis avait servi d'étable aux gens du pays. S'y était installé avec son âne et son bœuf. Il cultivait un arpent de terre. Et ainsi il vivait, toujours grave et triste, ne regardant personne, parlant à personne. Pourquoi seulement ne parvenait-il pas à se réchauffer, comme si, au plus loin, qu'il se rappela de sa vie, un éternel hiver eût transi ses os? Ce soir-là, surtout, il tremblait de froid. Il jeta des charbons au brasier, il s'accroupit devant le feu, mais il avait beau faire, sans cesse le froid le pénétrait davantage. Ah, c'était sans doute l'air du dehors, soufflant par cette porte que l'importune enfant avait laissée entr'ouverte. Sur le seuil de la grotte, le vieillard poussa un cri de terreur. Le ciel était devenu d'un noir d'ébène, et sa masse sombre, peu à peu, semblait tomber pour écraser la terre sous son poids. Les buissons à flanc de rocher tournoyaient en des secousses désespérées. D'étranges oiseaux planaient dans l'air, immobiles, les ailes étendues. Des chacals couraient le long du sentier, jetant des flammes par leurs yeux. Et tout cela dans un silence glacé. On eût dit qu'à la place des choses, rien ne restait plus que leur ombre. Et le vieillard songeait que toujours son cœur avait été pareil à ce sombre ciel sans étoiles. Ce silence glacé, toujours il l'avait porté au-dedans de lui-même, et toujours il avait eu l'impression de n'être rien qu'une ombre courant, privée de vie à travers la vie, comme ces oiseaux et ces bêtes qui s'agitaient devant lui. Et toujours, pourtant, il avait obéi au conseil de sa raison. Il n'avait pas fait un acte où il n'eût réfléchi, pesant longuement le pour et le contre, infatigable à choisir le parti le plus sage. Le chemin qu'il avait pris n'était-il donc pas le bon chemin? N'était-ce donc pas la sagesse qui conduisait au bonheur? Et voici qu'il aperçut, marchant à grand effort dans la pente pierreuse du sentier, un homme pauvrement vêtu qui soutenait dans ses bras une jeune femme, pâle et tremblante, la bouche ouverte comme pour mourir. La jeune femme était enceinte. Sans doute les douleurs l'avaient prise tandis qu'elle gravissait la côte. Et pâle, tremblante, anéantie de fatigue et de froid, le vieillard vit que ses pieds étaient rouges de sang. Alors un mouvement soudain de pitié lui secoua la poitrine. Et sans réfléchir, sans comprendre ce qu'il faisait, il s'élança hors de la grotte. Et soulevant de ses deux bras la jeune femme évanouie, il revint la déposer sur le lit de paille qu'il s'était préparé pour la nuit. Et longtemps ensuite, il s'empressa à la servir, si patient, si dévoué, que l'étranger en pleurait de bonheur. « Bon vieillard, mon père, lui disait-il, le Seigneur te paiera de ta peine. Il réchauffera la moelle de tes os. Sans toi, ma chère Marie serait morte, et l'enfant qui tressaille dans ses flancs. Oh, voici deux jours et deux nuits que nous marchons. Regarde le sang qui coule de ses pauvres pieds. Et depuis notre départ, elle n'a rien mangé. Nous venons de Nazareth, en Galilée. Mon nom est Joseph, je suis charpentier. Personne dans Bethléem n'a voulu nous recevoir. Et cette nuit terrible, tant de mauvais prodiges sur la route. Mais maintenant, nous allons repartir. Le ciel s'éclaire, nous trouverons bien nous étendre jusqu'au jour sous quelques rochers. « Non, non !» s'écria le vieillard, « vous resterez ici toute la nuit. Moi-même, il faut que je sorte. J'ai promis à une voisine, une pauvre petite fille, elle n'avait que moi pour la secourir, alors je lui ai promis de l'aider à rattraper sa chèvre qui s'est enfuie dans la montagne. » Et il sortit. Un moment, il voulut réfléchir, raisonner. Il se rappela son serment et la cruelle image de sa vie lui apparut de nouveau. Mais voici qu'un spectacle miraculeux interrompit sa pensée. Le ciel était devenu bleu, d'un bleu tendre et léger, et des milliers d'étoiles de toutes couleurs s'y jetaient, qui semblaient sourire. Et d'aimables parfums flottaient dans l'air attiédi. Et c'était autour de la grotte un vol joyeux de petits anges avec des ailes de diamants. Et le vieillard sentit alors que les mêmes miracles s'étaient accomplis au-dedans de lui. Une délicieuse chaleur le pénétrait. Des fleurs et des étoiles se jouaient dans ses veines. Son âme, après un long hiver, s'ouvrait enfin au printemps. Mais ses voix divines, ses douces voix pures et roses, Était-ce au dehors de lui, était-ce en lui qu'elle chantait? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, disait-elle, et paix sur la terre à ceux qui ont le cœur simple et qui n'écoutent que leur cœur. Et voici que le vieillard aperçut la chèvre de la jeune fille qui bondissait vers lui avec des caresses ingénues. Et voici qu'il aperçut la jeune fille qui, toute transfigurée de bonheur, tendrement lui baisa les mains. Et le vieillard allait sur le sentier, l'âme baignée de joie, tout entier désormais à ces divines chansons qui se chantaient en lui. Le lendemain, des bergers de Bethléem se trouvèrent étendus devant la grotte où venait de naître l'enfant de Marie. Ses lèvres souriaient, une auréole légère entourait son front, et du profond de son cœur avait poussé un beau lys. C'est du moins, ma chère petite sœur Isabelle, ce que m'a raconté autrefois, le soir de Noël, une vieille femme de mon pays.